Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
En compagnie du sociologue Louis Chauvel, qui publie un ouvrage, La spirale du déclassement, où il se montre très sévère sur la situation de la société française, des classes moyennes de plus en plus moyennes, une jeunesse sacrifiée. Et puisque nous sommes en année présidentielle, eh bien, écoutons un candidat, le candidat François Hollande, qui faisait des promesses lors du discours du Bourget. C'était le 22 janvier 2012.
Si je reçois le mandat du pays d'être le prochain président, je ne veux être jugé que sur un seul objectif. Est-ce que, au terme du mandat qui me sera, si les Français le veulent, confié, est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012 ? Je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. Changer leur vie serait pour moi la plus grande des fiertés. Ce n'est pas un engagement à la légère que je prends. C'est pour mobiliser toute la nation par rapport à cet enjeu.
Eh bien, moi, Louis Chauvel, je vous demande d'évaluer François Hollande, puisqu'il demandait à être évalué sur la situation de la jeunesse 5 ans après son élection. Faites-le, s'il vous plaît.
J'ai pas l'impression que ce soit très nécessaire. Tout auditeur un peu branché sur les informations sociales voit bien qu'effectivement le moteur n'est absolument pas reparti. Pas de bol sur le chômage, disait le président Hollande. La réalité des choses, effectivement, le fait que nous sommes sur une espèce de pente dérapante progressive mais rapide vers des situations de plus en plus difficiles de la jeunesse, du point de vue du logement, du point de vue du placement des jeunes dans le monde du travail, du point de vue de la valeur des diplômes. Disons que le diagnostic multidimensionnel est long à faire. Mon bouquin contribue à le faire une fois encore. En même temps, lui ou un autre n'aurait pas eu plus de chance d'améliorer la situation, parce qu'il faut faire beaucoup de choses pour véritablement changer la dynamique.
Alors, on va essayer de comprendre ce qu'il faut faire selon vous, Louis Chauvel, mais avant tout, essayons de comprendre pourquoi la France est dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces classes moyennes, selon vous, sont-elles en grande partie paupérisées?
En fait, le point numéro un, qui est certainement le plus banal, c'est la fin des 30 Glorieuses, depuis longtemps, et l'accumulation d'années de stagnation, voire de récession, produit une situation où l'écart entre ce que nous aurions pu penser être le monde des années 2010, il y a une vingtaine d'années, et ce qu'elles sont aujourd'hui, sont dans une situation. On se rappelle par exemple les projets européens autour de Lisbonne, avec des indicateurs socio-économiques tous à la hausse d'une façon extraordinaire. Entre ce que nous avons fait aujourd'hui, après une quinzaine d'années, et les plans initiaux, nous sommes dans la stagnation, alors qu'on proposait des croissances extraordinaires. En fait, nous stagnons alors que nous continuons d'avoir à l'esprit un monde de croissance idéale, et nous en sommes très très loin. Le deuxième point le plus difficile en France par rapport aux autres pays qui connaissent le même type de récession, c'est une division générationnelle des difficultés. C'est-à-dire que lorsqu'on analyse classe d'âge par classe d'âge ce qui s'est passé depuis les années 1960, les seniors ont été les victimes des années 60 à 80 en quelque sorte. Mais ensuite, le moteur de la croissance économique, des niveaux de vie, de la capacité de consommation, d'acquisition du logement, d'acquisition patrimoniale et ainsi de suite, sont devenus les seniors des années 1980 à nos jours. Et si on cherche la France heureuse, la France qui gagne, il faut la chercher effectivement autour des jeunes retraités entre 65 et 75 ans. Et les données sont extraordinairement claires à cet égard. C'est-à-dire que le revenu n'a cessé de croître dans ces classes d'âge-là, même en situation de décroissance économique, c'est-à-dire de 2008 à nos jours, les conséquences de la crise économiques ont été vécues massivement par les classes d'âge actives, dont les salaires ont stagné ou régressé lorsqu'on tient compte de l'inflation, heureusement relativement faible. En revanche, chaque nouvelle génération de retraités obtient un niveau de retraite plus élevé, mais en plus, c'est ce que l'on appelle en anglais « the perfect storm », c'est-à-dire que c'est une croissance des retraites, c'est une croissance de l'accès aux droits sociaux, c'est une explosion du prix du mètre carré, qui est une très mauvaise nouvelle pour les locataires ceux qui accèdent à la propriété.
Je pense qu'il faut s'arrêter là-dessus, Louis Chauvel, parce que dans le patrimoine des individus, la part la plus importante est bien souvent constituée par le logement, si les individus ont la possibilité de l'acquérir, ce qui est le cas pour un peu plus de la moitié des Français. Et là, les statistiques que vous donnez sont quand même assez éclairantes. Elles montrent qu'en France, et c'est un cas isolé par rapport aux autres pays selon vous, eh bien, les revenus ont progressé beaucoup moins vite que le prix des logements.
Nous sommes, avec la France, dans l'un des cas extrêmes. Et ces cas extrêmes, c'est aussi l'Europe du Sud. C'est-à-dire que la France devient, bonne nouvelle, de plus en plus un pays d'Europe du Sud, mais il n'y a pas le soleil en l'échange. La France est un pays où, effectivement, outre le fait que les retraites ont pris une place extraordinaire dans le budget, le prix du mètre carré a connu une explosion par rapport au pouvoir d'achat, au niveau de vie, au salaire de la population. C'est-à-dire que de 2000 à nos jours, vous avez eu un doublement du prix du mètre carré, qui avait suivi un doublement entre les années 80 et les années 2000. On est dans une situation où, effectivement, ceux qui ont eu la présence d'esprit d'acquérir ne serait-ce qu'un petit logement dans les années 80, ignorent en quelque sorte les fortunes qui se sont en quelque sorte virtuellement qui ont virtuellement convergé dans leur poche, simplement parce qu'ils ont acquis un logement dans les années 90, encore mieux dans les années 80. Et cela se produit un revenu virtuel dont les gens ne sont pas conscients, sauf si les agents du fisc leur rappellent qu'ils atteignent la limite de l'impôt sur la fortune. Cet argent virtuel est une énorme sécurité pour ceux qui en bénéficient, et ceux qui en bénéficient sont bien évidemment massivement présents dans la classe d'âge 60 à 80 ans.
Et donc ce qui est déterminant effectivement, c'est d'être un retraité qui possède ou pas son logement, parce que là, on voit bien qu'il y a une différence, plus l'effet richesse que vous évoquez, c'est-à-dire l'idée de considérer finalement qu'on a un patrimoine et que ce patrimoine vaut de l'argent. Et ce que vous montrez, et on ne comprend pas bien pourquoi, Louis Chauvel, c'est qu'en Allemagne, par exemple, le prix des logements n'a pas du tout cru comme il a cru en France. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne?
La France, c'est l'anti-Allemagne et réciproquement. D'une part, il y a la démographie, c'est-à-dire que le baby-boom français a été très fort. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi un aspect d'investissement, c'est-à-dire que l'épargnant allemand, jusqu'à présent, jusqu'aux 5 dernières années, a toujours préféré Volvo Volkswagen et BMW, alors que les Français ont toujours préféré épargner dans la pierre. Toute personne qui a un petit héritage, la première chose à faire en France, c'est de tout mettre dans un studio à Paris ou n'importe où. Et le résultat est celui que pour les jeunes actifs à la recherche d'un nouveau logement ou parce que un enfant vient de naître, il faut s'agrandir, sont victimes de ces prix absolument extraordinaires et complètement uniques, sauf à remonter avant la Première Guerre mondiale. On a eu un retour à avant la Première Guerre mondiale. C'est l'une des facettes de cette réalité pour les générations d'actifs d'une cinquantaine d'années. De l'autre côté, effectivement, les bénéficiaires ont véritablement bénéficié d'une accumulation extraordinaire en France. Et c'est vrai que dans le contraste France-Allemagne, les politiques publiques ont été très différentes. C'est-à-dire que on a beaucoup moins tout mis sur les retraites. Enfin, je suis prudent en disant qu'en France, on a tout mis sur les retraites. Mais tous mes collègues qui comparent à l'échelon européen les niveaux de retraite vous diront qu'en Italie, en Espagne et en France, vous avez une situation exceptionnellement favorable aux seniors, et exceptionnellement défavorable par conséquent aux jeunes entre 25 et 50 ans plus qui n'ont pas d'investissement dans l'appareil productif. Vous avez un investissement massif dans l'appareil productif en Allemagne. On peut discuter, mais la situation est qu'en Allemagne, la question du chômage n'existe pas. Pour un jeune journaliste en Allemagne, le débat, c'est est-ce que je choisis un micro-job cool ou quelque chose qui rapporte vraiment dans des conditions beaucoup plus dures d'emploi, mais la perspective du chômage n'est pas une perspective allemande encore aujourd'hui, alors que pour tous les Français, quelle que soit la catégorie sociale, quelques exceptions près, la perspective du non-emploi, du très mauvais emploi, enfin, les journalistes pigistes, vous en connaissez le sort et la vie au quotidien, et pourtant nous sommes sur des niveaux de diplôme de classe moyenne supérieure, montre à quel point en France, on a une situation de récession généralisée, de manque d'investissement, d'un secteur public sans aucune ressource économique supplémentaire de capacité d'investissement. Il serait intéressant d'avoir Jean Lebrun pour témoigner de ce qu'étaient les ressources de la matinale de France Culture dans les années 90 encore. Mais c'est un exemple parmi d'autres de la raréfaction des ressources économiques que l'on connaît en France, alors que le cas universitaire est extrêmement intéressant. Si on compare une université française qui se désagrège de l'intérieur jusqu'à l'infrastructure bétonnière, et ce qui est une université standard, moyenne, intermédiaire en Allemagne, le contraste est de plus en plus clivant et effrayant sur le devenir de ce pays.
Enfin, le constat que vous faites sur les jeunes, il dépasse de très loin, évidemment, la population donc des jeunes journalistes ou des jeunes universitaires. C'est un constat qui est général, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est préoccupant, parce que ça ne vaut pas uniquement pour un certain nombre de professions, Louis Chauvel, mais là aussi on a envie de vous demander pourquoi. D'abord parce que les politiques ne cessent en campagne, on l'a entendu avec François Mitterrand et avec François Hollande, ne cessent de dire qu'ils veulent avant tout s'adresser aux jeunes et améliorer leurs conditions, et au final les constats ne sont pas aussi roses qu'ils devraient l'être, puisque vous dites que la condition des jeunes n'a cessé d'empirer. Alors finalement, est-ce que les politiques ne parviennent pas à améliorer la situation des jeunes? Est-ce qu'ils ne le veulent pas, parce que ce sont bien souvent les plus âgés qui votent?
C'est pas simplement les plus âgés qui votent, ce sont avant tout les plus âgés qui décident. C'est-à-dire que dans la spirale du déclassement qui résume une dizaine d'années de travaux sur une vingtaine de domaines différents, vous avez notamment l'évolution de la pyramide des âges à l'Assemblée nationale et les probabilités relatives des moins de 40 ans et des plus de 60 ans de siéger et de décider. Et nous avons là un exemple parmi des dizaines d'autres qui embrassent l'évolution de la pyramide des âges dans les syndicats et de tout un ensemble de domaines d'activité où, à l'évidence, les jeunes sont systématiquement évincés de la prise de décision politique, collective et organisationnelle. Les jeunes sont certainement présents dans les blogs et dans tout un ensemble de débats plus numériques que véritablement oraux et collectifs. Mais la prise de décision on va dire officielle, efficace, selon les règles standards de la prise de décision démocratique, les jeunes en sont massivement absents. Et vous trouvez toujours quelques, on appelle ça en anglais « token young », vous avez toujours quelques faire-valoir jeunes pour faire semblant d'un renouvellement politique. Mais la réalité démographique de masse sur laquelle j'ai retravaillé en tant que non seulement de sociologue, mais démographe et économiste sur ces questions-là, montre effectivement des transformations où, d'un point de vue politique, d'un point de vue patrimonial, la repatrimonialisation est une affaire avant tout de seniors.
Alors ça, il faut expliquer.
Et d'un point de vue du monde du travail, vous avez une transformation où les jeunes des classes moyennes, salariés intermédiaires, sont massivement exclus par rapport à ce qu'a été la situation de 1968.
Louis Chauvel, la repatrimonialisation, ça n'est pas seulement un mot compliqué à prononcer.
Repatrimonialisation est un outil extrêmement utile pour comprendre les transformations d'aujourd'hui et le grand retour de bâton que nous connaissons depuis le développement de la démocratie sociale et les 30 glorieuses à la française. On pouvait se passer de patrimoine dans le monde des années 1970 et la plupart des gens qu'on connaît, des élites et d'ailleurs, se sont passés du patrimoine de leurs parents pour se faire eux-mêmes. Aujourd'hui, il est impossible de s'établir dans la vie sans un accès massif à une famille généreuse et possédante, sans laquelle il est impossible de faire sa place. C'est vrai du point de vue du logement, c'est vrai à tout point de vue. Cette repatrimonialisation signifie le passage ou le retour à la société d'avant la Deuxième ou la Première Guerre mondiale, où en fait la vraie variable qui définit les gens est de moins en moins ce que vous faites à quel niveau de salaire, mais quel est le niveau d'accumulation patrimoniale qui se trouve derrière dans la famille. Et en fait, les structures sociales, dans le livre, je montre les transformations de la pyramide exponentielle de la répartition du pouvoir socio-économique lié d'un côté au salaire avec un rapport de 1 à 3 entre le dixième le plus bas et le dixième le plus haut. Le salaire, c'est de 1 à 3, le patrimoine, c'est de 1 à 300, et nous rentrons de nouveau dans cette structure sociale de classe extrême. Et c'est pour ça qu'en réalité, le livre devrait s'appeler « Classe et génération ». Vous avez un croisement entre la dynamique de classe où nous retournons au monde ancien avec le monde du XXIe siècle, en termes d'inégalité de structure sociale, et en même temps, cette structure sociale est violemment présente pour chaque nouvelle génération qui arrive dans le monde du travail.
Et c'est ça, en fait, le paradoxe que vous montrez. Un chapitre pourrait pratiquement s'appeler « Spécial immobilier » parce que vous montrez que finalement, ces inégalités de patrimoine qui sont plus criantes en France, dites-vous, que les inégalités de salaire et qui sont redoublées par le fait que les individus n'ont pas des chances finalement égales, selon vous, puisqu'il leur faut un marchepied pour débuter dans la vie. Elles sont constituées principalement par la pierre, c'est en tout cas ce que vous montrez, ce qui signifie que paradoxalement, on a le retour d'une sorte d'économie de la rente en France.
Oui, quand quelqu'un comme par exemple Piketty s'intéresse à Balzac, relire Balzac fait partie des éléments intéressants pour comprendre le XXIe siècle dans sa dynamique de recristallisation, de restratification dans le jargon sociologique.
Alors la restratification,
c'est-à-dire de reconstitution. Bon, pour préciser les choses, vous avez Henri Mindras dans les années fin 80,
un grand sociologue,
qui parle de la moyennisation. C'est-à-dire qu'en fait, la structure de classe explose ou se réduit et nous convergeons tous vers une classe moyenne idéale. Nous avons un grand retour de bâton, un retournement vers des structures beaucoup plus rigides. Du point de vue éducatif, ça se voit très bien pour accéder à l'école normale supérieure. Il est préférable d'habiter rue Soufflot que n'importe où ailleurs et ça se voit de plus en plus en termes de compétition scolaire à tout point de vue, mais c'est l'un des nombreux aspects. Ça se voit dans la pierre, mais en réalité, la pierre est l'aspect le plus visible de retournement de fond qui se voit partout. Accéder à un stage à l'ONU, ça signifie accepter pendant 3 ans de n'avoir quasiment aucune ressource économique et par conséquent, si vous n'avez pas derrière vous de parents ou de grands-parents prêts à vous offrir des prêts, c'est la banque grands-parents qui couvre ces nécessités-là, vous n'avez aucune chance d'accéder à cela.
Louis Chauvel, en lisant cela dans votre ouvrage « La spirale du déclassement », on se dit « bon bah, très bien, dans ce cas-là, il suffit de changer la fiscalité, puisque finalement, si pour vous le problème, c'est la constitution du patrimoine et son inégalité, il faut, à en croire Chauvel, une nouvelle fiscalité sur le patrimoine.
La réalité, c'est que ça ne suffira jamais. Je veux dire par là que, en plus d'être sociologue, il faut être réaliste, ultra lucide ou conscient de la réalité des structures sociales telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être naïf. Nous avons été naïfs ou nous avons tenu des propos d'idéologie naïve depuis peut-être une cinquantaine d'années quasiment. Et ce n'est pas en disant « inventons un impôt mondial sur le patrimoine et faisons cracher... »
Là, je parlais d'un impôt français puisque les élections sont françaises. «
Faisons cracher Trump au bassinet et si ce n'est que français, transformons la France en une Corée du Nord fiscale sur le patrimoine et sur le reste. » La réalité, c'est que c'est un petit peu déjà extrêmement naïf. Il y a d'autres choses à faire.
Mais c'est pourtant ce que Thomas Piketty, que vous citez abondamment, avait proposé. De refaire une autre fiscalité.
Je crois ça sincèrement.
Vous pensez qu'il voulait une Corée du Nord fiscale ?
Je pense qu'il faut être conscient des réalités sociales et politiques telles qu'elles sont. C'est pas en clamant il faut un énorme impôt sur le patrimoine qu'il existera. Cessons la naïveté. Il faut être réaliste, il faut être néo-réaliste en sciences sociales, il faut être ultra lucide en matière de ce qui se passe, de même qu'il faut comprendre tout un ensemble.
Donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec Thomas Piketty.
Je ne sais pas que je ne suis pas d'accord, mais
vous pensez que ça servira à rien, quoi.
Je pense très sincèrement que ça coûte pas cher d'en parler et que sur la réalité, ce n'est pas le seul levier dont on dispose. Ces leviers, c'est aussi le réinvestissement massif, faire de l'inflation. Et aussi investir là où la nouveauté se trouve. Mais ce que l'on constate...
Ou alors le pessimisme, puisque finalement, d'un livre à l'autre, Louis Chauvel, eh bien, votre constat est pessimiste, peut-être même de plus en plus pessimiste.
Non, il est simplement réaliste. Il faut comprendre les inégalités au sens fort du terme. D'autres refusent de comprendre les sources de violence dans la société française qui résultent de ces frustrations-là. Il faut aussi comprendre les inégalités. Pourquoi, en haut, les gens sont contents de l'existence d'inégalités?
La spirale du déclassement, essai sur la société des illusions, c'est publié aux éditions du Seuil et c'est votre dernier livre, Louis Chauvel. Mes camarades Zoé Sfez, Mathieu Conquet s'installent et Xavier Delaporte.
Bonjour,
bonjour à tous les trois. Et Xavier a lu votre livre, Louis Chauvel.
Bah oui.
Et il voudrait partir.
Dernier, est-ce que c'est vraiment le dernier?
Le dernier quoi?
Le dernier livre, vous le disiez.
C'est l'ambiguïté. En anglais, il y a une différence entre last et latest. Mais vous souhaitez vraiment mon bien?
Mais on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Mais en tout cas, c'est celui qui vient de sortir aujourd'hui. On peut le dire également ainsi.